Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, il y a eu lecture de deux passages d'évangile aujourd'hui. Le premier, c'est l'évangile normal de ce dimanche, et le second, c'est celui de Saint-André, qui fête Saint-André. La fête de Saint-André, c'est demain. Nous la fêtons avec anticipation, si je puis dire, aujourd'hui. Ces deux évangiles y ont en commun de raconter deux appels du Seigneur adressés d'une part à un jeune homme riche et d'autre part à Saint-André, qu'on appelle le premier appelé, et à quelques autres apôtres, dont Simon-Pierre, Philippe et Nathanaël. Lorsque le Seigneur appelle ses apôtres, il s'agit à proprement parler de ce qu'on appelle aujourd'hui une vocation, d'un appel qui s'adresse spécifiquement à quelques hommes. Les apôtres étaient 12, voire 70, choisis par le Christ pour devenir les fondateurs de l'Église. C'est un appel que le Seigneur adresse toujours, d'ailleurs, aujourd'hui encore, à ceux qu'il destine à devenir les ministres de son Église, principalement les évêques et accessoirement leurs délégués, les prêtres, qui ont pour fonction, les évêques essentiellement, pour fonction de structurer l'Église afin de permettre au Christ d'y être présent. L'appel qui est adressé au jeune homme riche, il est d'un autre genre, d'une autre nature. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une vocation. Ce n'est pas un appel adressé à quelques-uns pour leur confier un ministère, mais c'est un appel du Seigneur à quiconque veut être son disciple. Il y a deux manières d'être son disciple. On peut être disciple du Seigneur en gardant ses propres biens, c'est son métier, sa famille, et tout en essayant simplement d'observer les commandements et en les pratiquant de son mieux. C'est ce que, bien souvent, nous faisons tous ici même. Alors, les pratiquants, c'est ne pas commettre d'adultère, ne pas commettre de meurtre, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages, respecter les parents, voilà, tout ceci, vous le connaissez, et vous vous efforcez d'y obéir. Mais on peut aussi tout quitter, mais alors là, c'est un choix libre, une libre réponse à l'amour du Seigneur. L'évangéliste Saint Marc, lorsqu'il raconte le même épisode de la vie du Christ, il dit « Jésus le regardant, ce jeune homme riche, le regarda et se prit à l'aimer. » Voilà, ce n'est pas un appel contraignant, c'est simplement un désir d'amour du Christ. Et si on y répond, voilà, c'est agréable au Christ, à Jésus. Mais encore une fois, c'est un appel dont la réponse est laissée à la liberté de chacun. Mais de toute façon, de ces deux récits, on peut tirer une leçon générale qui est: de multiples façons, nous ne cessons d'être appelés par le Christ tout au long de nos vies. Tous les événements de notre vie, peut-être même quelquefois des événements tout simples, voilà, si on regarde intimement en nous-mêmes, ce sont des appels, c'est des façons qu'a le Christ de se rappeler à nous. Dans toutes les circonstances de notre vie, il convient d'être conscient de la manière dont nous réagissons à ces appels. Alors laissons-nous facilement agir notre vieil homme, celui en nous qui est motivé par l'esprit du monde, par l'esprit malin, ou au contraire, obéissons-nous à la voix du Christ? Choisissons-nous les valeurs du royaume de Dieu. Voilà, il faut toujours avoir cela présent à notre conscience intime. Et on verra que bien souvent, on ne fait pas forcément le bon choix. On est confronté à ce double aspect. L'appel qui vient du malin, qui vient du prince de ce monde et qui nous entraîne finalement vers la mort, et d'autre part la voix du Christ qui nous demande de le suivre, ce sont deux voix bien, bien différentes. Et tout appel venant du Christ, c'est toujours d'une manière ou d'une autre un appel à le suivre sur la voie du renoncement à notre ego, sur la voie de la croix, car il n'y a pas d'autre voie pour suivre le Christ sur le chemin du royaume de Dieu que la voie de la croix. Saint André nous fournit à ce propos un exemple admirable. On raconte qu'à la fin de sa vie, Saint André prêchait à Patras, en Grèce, toujours sur le thème de la croix. Et il avait un ennemi farouche, c'était le gouverneur de la ville, qui était courroucé par les progrès du christianisme, qui était dû à la prédication de Saint André, Saint André avait même été jusqu'à convertir la propre femme du gouverneur, et ainsi que son frère, qui deviendra après l'évêque successeur de Saint André à Patras. Alors, le gouverneur fit condamner Saint André à être crucifié, comme son maître Jésus-Christ. Il y a un petit livre dans les apocryphes, c'est-à-dire ces textes qui accompagnent notre foi, qui accompagnent les évangiles, mais qui ne sont pas paroles d'évangile, je veux dire. Apocryphes, ça veut dire qu'ils ont été écrits un peu à côté. Voilà. Et il y a dans ces petits livres, il y en a un qui est très connu en Orient et qui s'appelle Les Actes d'André et qui a été écrit d'après les spécialistes pas très très loin, pas très tard après la mort d'André, enfin au siècle suivant quand même. Mais c'est quand même très ancien. Et ce petit livre, je l'ai relu hier soir, il y a un magnifique poème sur la croix, dans laquelle André exprime un amour extraordinaire pour la croix. Cette croix vers laquelle il marche lui paraît lumineuse, comme la voie de la résurrection. Alors, j'ai cité quand même un tout petit passage de ce poème. Il s'étend sur plusieurs pages, hein, c'est superbe. Saint André s'écrit « Ô bonne croix, depuis si longtemps désirée, qui maintenant est préparé pour moi, qui te désire si ardemment. Ô bonne croix qui a été consacrée par le corps de mon Christ et que ses membres ont orné de pierres précieuses. » Bien sûr, il n'y avait pas de pierres précieuses sur les bois qui avaient été plantés pour Saint André. Mais voilà comment il les voit, comment il voit toute cette beauté, toute cette richesse. Voilà, c'est une admiration, un émerveillement devant ce mystère de la croix auquel il se trouve associé. Et sur la croix, c'est toujours ces actes qui parlent, sur la croix, alors il a été lié, il n'a pas été cloué, il a été mis avec des cordes. On pourrait croire que c'est moins douloureux. En fait, c'est pire. En fait, c'est pire parce que la mort met plus longtemps à venir. Et le fameux, j'ai oublié son nom, mais le fameux gouverneur de Patras avait sciemment, dit-on, exigé qu'il soit crucifié de cette manière, avec des cordes, pour que ça dure plus longtemps. Et effectivement, la mort tardait à venir, puisque il semble qu'elle ait mis plus de 3 jours. Il continue à prêcher la croix et à en dire la beauté et la splendeur aux fidèles de Patras qui sont restés près de lui. Voilà, tous ces appels, tous ces rappels du Seigneur que nous recevons tout au long de nos journées sont en même temps des appels à le suivre sur la croix, oui, des appels à un renoncement. Alors il ne s'agit pas d'aller souffrir 3-4 jours, mais voilà, d'avoir toujours au fond de notre cœur cette idée de renoncer, mais de renoncer pas par masochisme, mais de renoncer pour le Seigneur, pour le Christ. Et c'est un renoncement joyeux, parce que dans ce cheminement de suivre le Christ, le grand obstacle que nous rencontrons, qui nous empêche de répondre à ces appels du Seigneur, c'est la richesse. L'attachement à la richesse est tout le contraire du renoncement. Et être riche, ce n'est pas nécessairement posséder une grosse fortune, mais c'est être attaché à autre chose qu'au Christ. C'est cela, être riche. Dans la mesure où nous tenons à autre chose qu'au Christ, nous possédions ou que nous désirions cette chose, nous sommes riches de cette chose. Saint Jean Cassien raconte dans une de ses conférences, c'est très humoristique, il raconte comment un moine qui faisait son salut est devenu esclave de sa richesse, et sa richesse était une gomme. Et voilà, et par cette gomme, il a fait son malheur. Voilà, il s'est éloigné du Christ parce que ça a fini par l'obnubiler. Il n'avait plus que ça en tête. Voilà, alors ça nous fait rire, une gomme, mais cherchons un peu en nous. Il y a beaucoup de choses qui nous obnubilent et qui nous éloignent du Christ. Et ce sont des obstacles qui, humainement parlant, deviennent insurmontables. Et nous, pauvres hommes, nous sommes fatalement amenés à céder à ces appels des biens terrestres, parce que cela satisfait en nous ce fameux vieil homme qui est toujours là à crier famine en nous et à dire « et moi, et moi, et moi ». Y renoncer, c'est souvent au-dessus de nos forces humaines. Mais aussitôt, vous avez entendu dans ce passage de l'Évangile, le Christ ajoute « ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu ». Dans la mesure où nous reconnaissons notre faiblesse, notre impuissance, et où nous ne comptons pas sur nos propres forces pour répondre à tous ces appels du Christ. Il faut en être conscient, mais il faut savoir que nous tout seuls, nous ne pouvons pas. Et nous prions pour qu'il vienne en aide. Nous nous appuyons sur la force de sa grâce. Et à ce moment-là, nous pourrons répondre à ces appels du Christ et à le suivre. Et l'Esprit Saint nous fera sentir combien, à travers ces renoncements, quelle joie parfaite nous est donnée. Ça, c'est tout le mystère. Évidemment, c'était tout à fait magnifié par le poème de Saint André dont j'ai parlé tout à l'heure, mais à notre échelle, on peut aussi l'expérimenter. Et la période que nous vivons, qui est celle du carême de Noël, dans laquelle nous sommes actuellement, c'est une aide qui nous est donnée pour nous exercer justement à ces renoncements, pour nous alléger de tous nos fardeaux. Il ne s'agit pas simplement de réduire notre nourriture, mais c'est tout notre style de vie de carême qui nous allège de nos surpoids, de nos surpoids pas tant physiques que moraux, intellectuels, pour devenir capable de passer par la porte étroite du royaume, comme le chameau, cette histoire du chameau qui passe dans le trou de l'aiguille. C'est se dégonfler, être. Il ne s'agit pas d'une aiguille, véritablement d'une aiguille à coudre, c'était une petite porte dans la muraille de Jérusalem, mais où ne pouvaient passer que des piétons, et sans doute encore pas trop gros, qu'on ne fermait pas la nuit. Mais évidemment, le chameau, avec tout son barda, ne pouvait pas passer. Voilà. Et il fallait, si on voulait arriver à le faire passer, il fallait en tout cas qu'il se débarrasse de toute sa charge. Voilà. C'est pour ça que l'image nous parle, nous débarrasser de toute notre charge inutile. Alors il faut tirer parti de ce temps de carême pour nous affermir en vue du renoncement que le Christ nous demande. Et à lui, au Christ, qui nous invite à le suivre et à venir le rencontrer dans la crèche de Noël, soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.